pour rebondir sur cette question du conflit ou de la violence qui est apparue ce matin, Hicham Stéphane a aussi indiqué qu'on était passé d'une question nucléaire où on pouvait assigner la responsabilité à tel ou tel décideur à une responsabilité de masse. Et donc dans ce cadre-là, finalement, si on est tous responsables, et le développement durable est particulièrement efficace de ce côté-là, hein, les petits actes, on est tous responsables des, par nos petits gestes du destin de la planète, à ce moment-là, donc, comment se construit le conflit? Et on l'a vu avec les dispositifs participatifs, où justement un des reproches qui lui est fait, c'est que finalement tout le monde participe à la décision, et que donc tout le monde est responsable de cette décision, et donc que plus personne ne peut la remettre en cause. Et donc il me semble que ça réinterroge la question du conflit, cette histoire de responsabilité partagée. Une deuxième contradiction, il me semble, c'est cette question du système. C'est-à-dire que, d'un côté, alors c'est très présent dans la dernière intervention, hein, cette approche en termes de système où on aurait un système existant et il faudrait construire des systèmes alternatifs, etc., etc. La notion d'acceptabilité, elle, ou l'instrument d'acceptabilité, repose pas mal sur cette question du système, c'est-à-dire que finalement, elle fabrique un système local et elle essaye de construire un dispositif qui correspond à ce système local qu'elle a cerné, hein, en disant on va voter sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes dans tel département, point barre. Ce qui est contradictoire, c'est que bien souvent, la critique écologique et écologiste s'appuie aussi sur cette notion de système, en parlant d'écosystème, de biodiversité, etc., etc. Et enfin, il me semble, hein, qu'une des conséquences de cette approche systémique partagée, finalement, par ceux qui portent le développement durable, l'acceptabilité, enfin, la nécessité d'une acceptation, etc., etc., d'un côté et de l'autre, la critique, écologique notamment, ben finalement dans ce partage du système comme fondement de l'argumentation, hein, bien souvent c'est très très, enfin quand on compare les débats politiques classiques aux débats politiques, enfin aux débats ou aux controverses sur ces questions-là, on voit tout de suite le niveau technique monter très vite, alors que dans les questions politiques on sent une accessibilité beaucoup plus grande. Et donc, dans quelle mesure elle ne dépossède pas, finalement, un certain nombre de publics et de milieux de ces questions-là. Le troisième point sur lequel je souhaitais intervenir, c'est sur la dimension anthropocentrée de la question écologique. Donc ça, c'était ce que soulignait aussi Stéphane Hicham ce matin. On n'y est pas revenu, il me semble que c'est important. On a tendance bien souvent à traiter la question écologique pour elle-même, et l'approche systémique n'y est pas pour rien, mais alors Hicham Stéphane parlait de comparer, disons, l'absence d'intérêt des jeunes pour les questions écologiques et finalement c'était assez différent pour la question animale par exemple, mais il me semble qu'il y a un effort des militants écologistes et voire des chercheurs aussi à désanthropocentrer cette question-là, c'est-à-dire finalement la scientificité de l'approche scientifique reposerait sur le fait que ça serait une approche qui serait désanthropocentrée, c'est-à-dire on parlerait de milieux écologiques, etc., etc., où l'homme est très peu présent. Et il me semble que c'est le contraire qu'il faut faire, c'est-à-dire c'est finalement anthropocentrer cette question écologique pour donner toute sa place à tous ceux qui pourraient avoir un mot à dire, hein, sur ces questions-là. Parce que si on désanthropocentre, je ne sais pas si ça existe, la question écologique, du coup, on délégitime finalement toute une série d'acteurs. Et Kaufmann, tu disais, notre boulot, c'est aussi de faire intervenir des acteurs sans droit, entre guillemets, sur ces questions-là. Et ben, je pense que c'est important de réanthropocentrer ces questions-là. Et une dernière remarque sur le contexte politique dans lequel se fait le travail de recherche. Ce qui est très clair dans le numéro, justement, dans les deux numéros, donc celui qui est sorti de la revue Vertigo, sur mettre à l'épreuve l'acceptabilité sociale, c'est la question du milieu de la recherche, où on voit, alors là c'est flagrant, l'approche québécoise qui est très différente des approches françaises, et on voit bien dans quelle mesure le milieu politique dans son ensemble, disons, fabrique aussi le milieu de la recherche. Donc ça, peut-être qu'il faut aussi en tenir compte beaucoup plus, parce qu'on a tendance à vivre l'instrumentalisation depuis les acteurs politiques, etc., etc., mais au sens justement situé. Or, finalement, la recherche quand même est construite de manière, enfin, globalement aussi par le politique, quoi, et pas uniquement dans certains dispositifs appliqués à tel endroit, etc., etc. Donc c'est des remarques, des questions ou des contradictions qui s'adressent à l'ensemble des intervenants. Pardon ?
Non, je dis, messieurs les intervenants, vous avez 3 minutes pour répondre. Ouais.
Je vais répondre à la question de la dissolution de la responsabilité et puis du passage à une société, on va dire, où on pouvait identifier des coupables et à un partage de la responsabilité par la masse. Je vais continuer à citer toujours le même auteur, hein, mais on trouve aussi chez Marcuse ou chez tous les dans le mouvement, on va dire, de la théorie critique dans la philosophie allemande, qui essaie de montrer qu'on a changé les rapports de production, c'est-à-dire qu'on est passé d'une division du travail social où chacun travaille de manière à améliorer le tout social à une division du travail technique, où là on ne cherche plus à améliorer le tout social, mais où on confond les moyens et les fins. Et où la performance du moyen devient la fin en soi. Et c'est ce qui donne l'illusion d'une dilution de responsabilité. Et alors, comment ça se manifeste? Et tu as posé une question qui, justement, m'a fait tilt ce matin, quand on pose la question « à quoi ça sert ce que tu fais ?» Cet impératif de la performance et de l'utilité, c'est l'utilité intransitive. Ça, c'est un concept de Marcuse qui montre qu'à partir du moment où on oublie que l'utilité, donc du travail, de l'action, de la production, l'utilité est toujours liée à une finalité. À partir du moment où on pose la question quelle est l'utilité de cela, on oublie complètement déjà la question de la responsabilité. Et on est déjà dans un fonctionnement, dans un raisonnement qui dilue la question de la responsabilité avant même qu'on s'interroge sur les finalités des actions et de la production, de tout ce qu'on peut faire. Ce que je veux dire, c'est que si on... il faut éviter la... pour saboter, on va dire, le préjugé de la dissolution de la responsabilité, il faut poser la question aux gens, aux gens qui travaillent, etc. Quelle est la finalité de votre travail? Quelle est la finalité de ce que vous faites tous les jours? Quelle est la finalité des décisions politiques que vous prenez? Quelle est la finalité de ce que vous plaidez? Pourquoi vous voulez être élu un politique? Reposer la question des finalités, des décisions, des choix, des actions, etc. Parce qu'on a... On a trop l'habitude, je pense, de dire que la responsabilité est dissolue, que la culpabilité elle est généralisée, et que finalement, on ne peut rien faire, parce qu'on est tous coupables. Or, on peut faire quelque chose. On peut réfléchir aux responsabilités individuelles. Simplement parce qu'on doit rappeler que la division du travail doit être sociale, et non pas technique. Que l'impératif de l'amélioration des technologies, etc., ne doit pas être un impératif autonome, sans finalité, mais qu'il doit avoir des finalités. Et quand on pose, pour rebondir à la question que tu posais, quand quelqu'un, moi personnellement, me pose la question à quoi ça sert de faire de la philosophie, ou à quoi ça... Je réponds maintenant brutalement à quoi ça sert de vivre.
Ça fait plaisir.
Et là tout de suite, ça prouve l'absurdité de la question. Et c'est-à-dire qu'on a complètement intégré un mécanisme nihiliste. Qu'est-ce que c'est le nihilisme, un mot qu'on entend partout? Le nihilisme, c'est celui qui ne pose plus la question de la finalité, qui pense que quelle que soit la finalité qu'on va choisir, quelle que soit la valeur dans laquelle on va croire, le résultat sera le même. Et que finalement, il vaut mieux la destruction plutôt que le suivi d'une quelconque valeur.
Je te proposais une autre citation, mais je sais plus qui elle est à la question de l'utilité. Il y a quelqu'un qui répondait, la seule pièce vraiment utile dans une maison, c'est le tonneau.
C'est une très belle question.
Oui, non, sauf que on est bien d'accord, hein, sur le fond des responsabilités. Par contre, les dispositifs d'acceptabilité sociale sont construits justement pour fabriquer de la dilution de responsabilité.
Exactement.
Je pense justement et masquer la symétrie des responsabilités.
C'est les questions qui ont été posées cet après-midi. C'est comment faudrait trouver donc, la dimension, les dispositifs, les règles, comment on codifie, on organise. Et ça, justement, ça, souvent on a l'impression, enfin moi l'impression que j'ai, c'est que par peur de l'ordre, on va choisir la désorganisation. Alors qu'au contraire d'un ordre hiérarchique, autoritaire, où justement les questions démocratiques ne se posent pas, il faut thématiser l'organisation. Comment on organise une masse où la responsabilité semble dissolue, etc. C'est des questions d'organisation, et ça, pour le coup, moi je vois les réponses, parce que c'est pas.
Là, il y a un point. Sur ce que tu dis qui me semble important, c'est que tu parlais du rôle de la communauté scientifique. Je pense que là, on a un écueil assez important, c'est que la communauté scientifique se conçoit, je parle surtout des sciences de la nature, comme neutre axiologiquement. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire qu'on fait un travail d'inclusion de la société civile extrêmement intense depuis une trentaine d'années, à travers toute une activité théorique, pratique, culturelle, etc. Mais on n'interroge absolument pas notre posture de neutralité axiologique dans les communautés scientifiques. C'est ce qu'a développé notamment. Donc il y a une asymétrie complète, et cette neutralité, elle est partagée par tout le monde, par les chercheurs, par le public quand on fait des eurobaromètres, etc. Et ça me semble être un des écueils les plus problématiques, parce que quand on parle des techniques, ok, ensuite les impacts, etc. Par contre, les savoirs scientifiques eux-mêmes, qui sont de plus en plus, bien sûr, des technosciences, qui sont de plus en plus transférés vers la pratique, demande, notre dernier livre c'est une critique des promesses, donc une inflation de promesses scientifiques qui sont requises maintenant pour obtenir des fonds dans des projets qui sont de plus en plus importants. Donc il y a un phénomène de bulle spéculative dans les milieux scientifiques qui se développe, mais personne ne s'attaque à cette question de neutralité des savoirs scientifiques. Donc il y a notamment Léo Coutelet qui récemment a développé son concept de science impliquée. Et je pense que c'est vraiment une urgence pour les communautés, les communautés scientifiques de s'interroger là-dessus, et en particulier pour les sciences de la nature, qui sont, on pense à toutes les recherches en écologie, en biologie, etc. Donc là, il y a une espèce de flou qui est pour moi extrêmement, extrêmement grave, parce que ça renvoie aussi à une posture, probablement que c'est ce qui nous dissuade aussi de vraiment mettre en cause les systèmes d'évaluation dans lesquels on est pris, qu'on discutait tout à l'heure à table. Une plainte omniprésente des communautés scientifiques, mais qui ne s'auto-organisent pas pour transformer cette situation de pression à la production. Donc là, il y a vraiment un enjeu. Alors là, je crois vraiment que c'est le microcosme académique, mais qui pour moi est absolument central. Parce qu'il y a un malaise qui monte et qui, est pour moi, fait partie des différents insoutenables qu'ils citent dans ces travaux, hein, les cinq insoutenables, éthiques, psychiques, écologiques, physiques, médiatiques, etc. Ça fait vraiment partie de ces insoutenables. La question de la connectivité que tu évoques là, entre les dossiers écologiques et son potentiel de sidération, de dépossession pour les acteurs, je pense que c'est vraiment c'est un très gros problème. Parce que les questions de santé, par exemple, en tout cas en Suisse, je pense que à part les impacts environnementaux sur la santé, la question de la possibilité de continuer à développer des systèmes de soins ultra technologiques n'est jamais mise en rapport avec les questions écologiques. Jamais. Donc, si on arrive avec ces questions, on parle même pour un martien. C'est absolument pas audible. Donc là, je pense que c'est aussi un enjeu.
Ça participe à ce que tu appelles la désanthropocentrisation. Scrabble, c'est bien. Qui participe à l'idée d'un élargissement, effectivement, des questionnements qu'on va pouvoir légitimer par rapport à ça. Moi, j'avoue que je suis assez pessimiste sur la capacité de connecter les questions écologiques et sociales et énergétiques et financières, etc., sur des programmes de recherche scientifique actuels. C'est-à-dire que, à part le cachex de l'interdisciplinarité qu'on va pouvoir mobiliser plus ou moins, sinon je ne vois pas vraiment un questionnement prioritaire. Sauf à reconsidérer, par exemple, un travail de l'acceptabilité ne peut se produire que dans l'acceptation d'un contexte fini, notamment sur des bases écologiques.
Donc là, l'inventaire écologique est plutôt intéressant parce qu'il objective l'idée que c'est une réalité intangible sur laquelle on doit nécessairement agir rapidement sur ces questions-là. Le reste reste négociable et sur des temporalités longues de négociation. On est quand même sur une fiction de la négociation politique, du contrat social qui n'a ni limite dans son temps d'application et ni limite dans ce qu'il va pouvoir inclure dans la délibération. Et là, ça pose une série de problèmes que l'acceptabilité sociale, encore une fois, continue à masquer par un effet de compartimentage. Je crois que l'un des enjeux de cette journée, c'était justement de montrer qu'il faut décompartimentaliser, ça se dit ça ? Décompartimentaliser, c'est pas trop beau, hein ? Bon, enfin bref. Et ça ne peut se faire qu'à partir du moment où on pose la question des référentiels qui supposent les processus de l'acceptabilité sociale. Donc c'est ce jeu-là qui me paraît intéressant. Et dans cette approche-là, je trouve que ce que dit Philippe Descola sur l'anthropologie culturelle, qui est la note notamment sur le plan scientifique, qui a été façonné par 250 ans de positivisme scientifique, fait que c'est extrêmement compliqué maintenant de revenir, dit-il, et le mot revenir est compliqué à le mobiliser dans les sciences, hein, revenir sur l'idée que nous ne sommes pas les seuls acteurs décisionnaires du projet du monde qui va arriver. Et donc il faut négocier avec les non-humains, par exemple, il faut négocier avec les générations futures, mais comment on les représente, c'est ce que tu dis avec Dominique Bourg et Kerry Weinstein. Voilà, c'est compliqué. Le problème de cette question d'acceptabilité sociale, enfin en tout cas moi au départ quand tu m'avais proposé de travailler là-dessus, je le voyais assez simplement, hein, c'est une espèce de, en gros, de processus assez opportuniste par les opérateurs et les décisionnaires qui ont les moyens de poser cette question. Et finalement c'est une question beaucoup plus ouverte que ce que je pensais. Alors je te remercie de me l'avoir posé.
Mais on a peu parlé du développement durable parce que le développement durable a justement cette propriété, en tout cas pour ceux qui portent cette notion-là, de transversalité que tu juges un peu absente. Hein. Et ce que ça produit dans les dispositifs, c'est les espèces de tableaux à double entrée avec 46 en colonne et 50 cases en ordonnée, enfin en abscisse plutôt, je ne sais pas comment on dit, en ligne, qui en font des instruments totalement inappropriable par les acteurs, à part ceux qui les ont pondus, mais encore.
L'intention générale est appropriable, ça suffit. L'intention générale suffit. La méthodologie qui va développer, il y a notamment Antoine Gox qui avait fait des travaux sur les méthodologies du développement durable, malheureusement il n'a pas fini sa thèse, qui montrait bien comment il y avait une professionnalisation technique des indicateurs des agendas internes. Donc l'intention, c'est on va créer un territoire plus adapté aux objectifs du développement durable. Comment on le fait ? Les agendas 21. Donc, finalement, il n'y avait pas trop de dispositifs techniques pour les agendas 21. Les cabinets conseils s'en saisissent parce qu'il y a de l'argent à se faire. Il y a des commandes publiques, etc. Et finalement, ces cabinets vont construire des outils de la rationalisation de cette intention. Et avec des batteries d'indicateurs, enfin des trucs de plus en plus compliqués qui renvoient à une espèce de scientificité du dispositif. Des chiffres, des camemberts, des machins, etc. Bref. Et finalement, ce que montre Van Gogh, c'est que ça s'est beaucoup développé sur des politiques qu'on savait déjà à peu près faire, qui étaient les politiques environnementales, mais sur la convergence du social, de l'environnement et de l'économie, ça s'est très peu fait, puisque justement, on n'avait pas cette capacité-là. Donc, moi, je pense que... La question du développement durable, on a écrit un article avec Olivier Petit, on s'est amusé à faire un jeu de ping-pong. Lui pense, dans sa grande naïveté d'économiste, que le concept de développement durable a été sous-exploité et qu'il a donc une vision, comment dire, transformatrice beaucoup plus importante parce que justement, il a une proposition performative extrêmement stimulante, c'est incitatif. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le pessimisme, etc. Le développement durable est une procédure incitative. Hein, c'est les lendemains qui chantent, etc. Et de l'autre côté, moi, je suis plutôt sur une position, pour étant malgré tout avoir beaucoup travaillé sur cette question-là, que c'est un concept qui a raté dans sa fenêtre d'opportunité politique. il a raté parce que justement, il a sous-estimé la symétrie des pouvoirs des acteurs en cause dans la question du rapport entre l'économie, le social et l'environnemental. Cette fiction de considérer que les acteurs étaient en une situation de pouvoir dialoguer en équilibre et presque en égalité, qu'on a entretenu, hein, qu'on a voulu entretenir, etc., c'était une fiction. C'est-à-dire, tu te souviens des trois camemberts classiques, en fait, le camembert économique, le camembert environnemental et le camembert social. Et donc, finalement, faute d'avoir pris en compte ces asymétries de pouvoir, et là, c'est une approche très science politique, hein, quels sont les acteurs qui disposent le plus de ressources pour pouvoir faire évoluer la décision en fonction de leur intérêt, eh bien on voit bien que ça conditionne le développement d'une durabilité qui est conforme au schéma qu'elle devait normalement remettre en cause. Et donc, ouais, c'est une espèce d'assimilation progressive, ce qu'on a essayé de montrer dans le bouquin « L'appropriation du développement durable ». Une euphémisation finalement du projet qui aboutit à une dépolitisation, et donc dès lors que la question du développement n'est plus politisée, eh bien elle se conforme au schéma de l'acceptabilité économique. Et les choses vont dans ce que j'ai appelé une politique de réalignement. Tout ce qui pouvait être de l'ordre du débat, qui pouvait infléchir durablement les politiques, eh bien finalement ont été réalignés par des processus de professionnalisation, de codification, il ne faut jamais oublier le travail de codification législative, et puis par un effet d'habitude, tout simplement. On s'habitue même à la catastrophe thermonucléaire, pourquoi on ne s'habituerait pas à une espèce de développement durable, non, etc. Donc ça, c'est des problèmes, si tu veux, qui font que maintenant, au nom même de cette espèce d'hypothétique développement durable, d'ailleurs, dont on parle plus tellement dans les institutions publiques.
On n'ose plus l'utiliser.
Voilà, c'est transition énergétique, transition écologique, etc. On passe à un nouveau cadre de référentiel, tout aussi euphémisé, mais qui insiste beaucoup sur les dispositifs techniques. Et comme les dispositifs techniques ne sont jamais posés comme des questions politiques, bah, tout va bien, Madame la Marquise.
Oui, et une approche systémique qui reste très... Et donc, qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à... Parce que la remarque que je faisais tout à l'heure sur le fait qu'on a une approche systémique qui perdure par ceux qui portent ces dispositifs, mais aussi une approche systémique qui est fondatrice aussi de, des arguments qui s'y opposent.
Alors, je suis d'accord avec toi sur l'influence systémique l'acceptation des fonds dans le monde. On a conscience que ces phénomènes sont convergents. Je dirais on a conscience, en tout cas dans ce que nous a présenté Raphaël tout à l'heure. Par contre, je serais plus sceptique sur l'idée que les expérimentations territoriales qui justifient le fait qu'on va proposer des systèmes alternatifs soient vraiment des pensées systémiques. La question de la violence n'est pas posée. La question de la compétition des territoires qui va se poser entre la ville de Totnes, quand on est allé avec des étudiants là-bas, on a posé la question à Rob Hopkins. Si vous êtes résilient, mais que le territoire à côté ne se prépare pas à la résilience, qu'est-ce que vous allez faire au moment où ils vont venir toquer à votre porte en disant ben, « on n'a pas à manger, partagez ». Lui, il va dire « non, ah, on a des flingues, nous ». Alors, c'est la question qu'il posait tout à l'heure, est-ce qu'on va s'entretuer ? Alors, je sais bien que c'est caricatural, encore une fois, j'exagère, suivant la bonne méthode chère à notre ami Gunther Anders, mais ce qui est intéressant, c'est que l'exagération, elle met en avant des particularités que, justement, l'objectif positif de la transformation tend à masquer. Et que c'est quand même des enjeux importants. La question de la résilience des territoires, ça pose aussi la question de la possibilité du territoire d'être résilient. C'est-à-dire que quand la ville de Bristol fait un plan de descente énergétique, elle dit qu'il va nous falloir compenser la baisse de l'importation alimentaire par une production locale de l'alimentation. Et là, ils se retournent vers les services techniques de la ville et ils disent « Est-ce qu'on a des territoires pour ensemencer ?» Et les services techniques, déjà, ils disent « cette question ». Et puis, une fois qu'ils ont compris l'intérêt de la question, ils disent « Non ». Et troisième question, ils sont amusés en se disant « Si nous voulons maintenir notre consommation de bière, nous allons devoir prendre beaucoup de place sur les territoires céréaliers au détriment du blé ou d'autres produits. Donc, il va falloir qu'on renonce aussi à notre consommation de bière. » Et là, dans les réunions publiques, c'est Luxemel qui raconte ça. Ça a un peu tiqué quand même, hein, parce qu'on veut bien renoncer à beaucoup de choses, mais il faut la bière. Donc, il va y avoir des arbitrages. La question de l'arbitrage, ça renvoie des logiques systémiques. Quel est le plan de développement qu'on va vouloir ? Qu'est-ce qu'il est durable, etc. Et je trouve que les expérimentations locales qu'on valorise, par exemple dans le film Demain, oublient les caractères plus systématiques de ces expérimentations. On voit sur ce que ça produit comme bien-être pour les populations qui sont insérées dans le dispositif, en oubliant complètement qu'en dehors, la plupart des gens ne participent pas à ces dispositifs. Totnes, les villes en transition à Totnes, c'est 300 à 400 militants, pas plus, sur une ville qui comporte 6000 habitants.
Détroit, c'est des habitants qui sont contraints de passer à l'alimentation urbaine. Et quand on fait des analyses plus qualitatives, quand on leur demande quelles sont les aspirations de leur projet de vie, c'est de retrouver un travail et de recontinuer à avoir une bagnole et de consommer comme tout le monde. Donc c'est un temps momentané de la résilience. C'est pas devenu un objectif permanent de vie. Parce qu'encore une fois, l'approche systémique suppose qu'on n'ait plus la possibilité de compartimenter les difficultés. Et ça, c'est l'expérimentation compartimente à chaque fois. On maîtrise un dispositif technique parce qu'on est d'accord entre nous, ça fonctionne bien, hein, c'est plutôt la logique un peu de la maîtrise d'un territoire, mais ça ne fonctionnera pas par rapport aux contraintes qui vont arriver.
Oui, mais l'approche systémique fabrique forcément des systèmes limités. Donc ce système, il peut s'appeler Totnes, il peut s'appeler Bristol, il peut s'appeler circuit court, etc. Donc on est bien quand même dans une approche systémique, même si on ne prend pas en compte le territoire d'à côté.
Malheureusement, il faudrait prendre en compte en même temps. Mmh. Là, en tout cas, dans les expérimentations que moi j'ai vues, on simplifie, encore une fois, pour éviter... Alors, j'aime pas tellement la notion de peur, mais j'aime beaucoup la notion d'angoisse que Gunther Anders utilise. La peur a un effet autobloquant, l'angoisse, c'est quelque chose qui prolonge quelque chose. Hein. La peur, c'est plutôt une réaction, on a peur. L'angoisse, c'est quelque chose, un sentiment qui prolonge le regard qu'on va avoir avec ce qui nous crée ce sentiment d'angoisse. Et là, on peut travailler. C'est ce que dit Rob Hopkins, hein, une fois qu'on a vraiment pris conscience des problèmes, une fois qu'on a vraiment peur, on peut commencer à travailler. Tant qu'on n'a pas peur, on ne travaille pas. On va différer. C'est le très beau texte d'Anders, c'est l'avenir pleuré d'avance. On va différer.